inquiétez pas.
Ça va être très technique, un peu ennuyeux, mais ça fait rien, j'y vais, je plonge. Alors j'ai un magnétophone 8 pistes, j'ai une console de mixage et qui me permet de mélanger ces 8 pistes avec plus ou moins de bonheur, des difficultés. J'ai des chambres d'écho multiples à ressort, à double carburateur. J'ai un synthétiseur qui est un instrument très étonnant qui commence à être popularisé maintenant, qui commence à être connu. Grosso modo, une espèce d'orchestre électronique qui permet théoriquement de reconstituer tous les sons existants. J'ai quelques orgues, quelques pianos et quelques instruments exotiques. Alors j'ai des amis qui viennent chez moi pour faire du jazz, mais des musiciens pour travailler actuellement non. J'enregistre tout comme un grand, avec l'électricité quand même, mais tout seul. Je joue très mal de beaucoup d'instruments, mais très mal. Comme je prends mon temps, c'est pas grave. Et avec la technique du recording, ça n'a pas grande importance parce qu'on peut se prendre à 20 fois. Je prends ça sur mon temps, sur mon son, sur mon sueur, mais je me prends à 100% sur le solo, sur l'instrument. Très bien, comme ça, avec de la langue, tu sais, on le
Vous êtes toujours sur Radio Canu et vous avez écouté dans l'ordre P.J. Lemoyne avec Secret d'État,
puis Calvin Harris avec This is the Industry,
et pour finir Fred Palem et le Sacre du Tympan qui nous faisait un petit tour dans l'atelier Radio Canu, la plus checkée des radios.
Radio Canu 102.2, vous venez d'écouter Deadless Fallen Love, le morceau. Et juste avant, c'était James Blake avec Postpone. Et encore avant, c'était Mankimbi Carbonated.
Just a worthless liar. I am just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and follow. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me.
down. You know it takes a time, but to shake outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Loin des bulldozers, y avait plein de petits lutins, de belles fées clochettes.
Be a trying to get out and work like everybody else, you know. You know, it's a fun job, but it's still a job. There's going to be another cat coming out looking like me, sounding like me next year. I know this. It'll be a flip side to what you did. Somebody else trying to spin off like some, you know, series.
If I have big dreams, I'm making big cream. Big shot, heavy hitter on the main. You want to look trendy in the Bentley. Be a snob and never act friendly. You want to have big fame? Let me explain what happens to these stars in their big brains. First they get played like...
Bienvenue dans Patchworld en direct tous les vendredis de 16 à 17h, sauf que ce n'est pas 16h. J'ai pris de l'avance puisque tout le monde est en vacances et que j'ai deux chansonniers. J'ai la chance d'avoir deux chansonniers. Je voulais se faire rencontrer parce que je trouve qu'ils ont des univers un petit peu parallèles dans leurs chansons qui peuvent se répondre. En tous les cas, je vais leur laisser le libre antenne de 16 à 17. Et entre parenthèses, j'ai rencontré aussi deux groupes la semaine dernière à la boulangerie du Prado. Un qui s'appelle Pray. P-R-A-Y, donc pourrait, avec un tréma sur le Y. Donc ils ont 4 titres qui durent 11 minutes. Je vous les passerai en fin d'émission, je pense vers 17h. Et puis l'autre groupe qui vient, je crois, du Mans, qui s'appelle Stone from the Sky. Donc S-F-T-S. Et donc leur album, c'est Break a Leg. Et je vais vous en passer un extrait. Et puis je vais vous parler aussi d'une petite édition qui s'appelle l'autogestion en pratique collectif. Voilà. Et puis bien sûr, donc tout à l'heure, vous aurez donc Dom, Mister Dom, qui a joué dans Zen Altitude, dans le groupe Rebellion, et qui fait ses chansons un peu swing manouche, qui est déjà venu dans Patchworld. Et puis Cyril Savoy, qui est venu la semaine dernière. Et du coup, je me suis dit, tiens, Dom qui vient de Vienne et Cyril, dans leur répertoire chansonnier, ce serait chouette qu'il y ait un regard croisé sur leurs textes et leurs thématiques. Nous sommes le vendredi 7 août 2020, il fait très bon à Lyon, très chaud, pensez à boire régulièrement, n'est-ce pas? On s'est posé tranquillou au jardin des plantes où on a fait un pique-nique. Et on a même pensé à donner une gamelle d'eau au chien qui était de passage. Donc on a rencontré un gros toutou qui s'appelle Bonaparte. Bonne aparté, qui veut dire une bonne partie. Vous êtes bien en direct sur les ondes de Radio Canus en 2.2 dans l'émission Patchworld qui mélange les genres et les styles. Et vous allez voir, on a une très belle diversité aujourd'hui. On profite de ce temps libre pour vous faire découvrir des choses très, très diverses. Allez, je démarre avec le groupe Stone from the Sky.
Thank you.
Vous êtes bien direct dans Patch World pour cet été 2020 et nous allons parler de l'autogestion. L'autogestion en pratique. L'autogestion renvoie au fait de gérer soi-même, par opposition à la gestion effectuée d'en haut par des cadres ou une direction extérieure. Autogérer, cela commence donc par s'organiser pour que ce ne soit pas un dirigeant qui décide pour les autres. Décider ensemble, entre individus égaux. Mais décider de quoi ? Décider de ce que l'on fabrique, par exemple, de comment on va le fabriquer, le diffuser, dans quel but, de quelle façon, etc. Les exemples regroupés sont divers, mais ils partagent la conviction élémentaire que, puisque c'est nous qui consommons, puisque c'est nous qui produisons, c'est à nous de décider. Au-delà de cette reprise en main peut conduire à une remise en question radicale de la production et de la consommation, de la coupure entre producteur et consommateur. Les acteurs de certaines expériences sont amenés à se demander que produire et pourquoi, questionnant ainsi le rapport à l'utilité sociale, voire la notion même de production. D'autres s'efforcent de remettre en jeu plus largement les séparations qu'implique l'organisation sociale actuelle et ses hiérarchies. Ainsi, l'expérience à part du lycée autogéré de Paris tente de faire bouger les lignes de partage personnel, enseignant, personnel technique et au-delà de la coupure enseignant-élève. L'autogestion est ainsi un point de départ pour remettre en question les modes d'organisation hiérarchique et autoritaire, qu'ils passent par l'État ou par un chef d'entreprise. Pour autant, l'autogestion n'est pas une formule magique, une panacée économique, ni un programme politique clé en main. Il faut s'en saisir, le faire évoluer, l'adapter, le perfectionner. L'autogestion est moins une réponse qu'une manière de poser les questions, un espace de lutte et d'expérimentation. En ce sens, l'autogestion ne doit pas devenir un nouveau mythe. Il nous faut faire, sans mauvais soin ni complexe, le bilan pratique de ces tentatives contemporaines afin de pouvoir en tirer réellement les leçons. Mais s'il ne prétend pas à la neutralité, cet ensemble de témoignages invite ainsi à un regard critique sur ces expériences. Ils donnent à voir leur réussite aussi bien que leurs limites, les interrogations qu'elles laissent ouvertes ou n'arrivent pas à prendre complètement en charge. À l'évidence, il y a encore beaucoup à faire, à essayer, à inventer. Nous voudrions simplement évoquer ici quelques-unes des questions que pose la mise en pratique de l'autogestion à la lecture de ces témoignages. Comment l'idée d'autogestion peut-elle devenir une arme pour affronter efficacement la question du pouvoir et non une manière de le mettre à distance ? Comment éviter que les projets autogestionnaires se cantonnent à des refuges isolés pour une minorité alternative ? Et finalement, comment articuler ces multiples initiatives locales ponctuelles afin d'élaborer des réponses à la mesure de la crise globale que nous traversons ? Ne plus accepter le pouvoir, quel qu'il soit, refuser de le subir comme de l'exercer. Si on repart des fondamentaux, l'essentiel dans la démarche autogestionnaire, c'est déjà de se dire que les inégalités et les rapports de pouvoir ne sont pas une fatalité, qu'ils ne sont pas naturels. On peut les affronter consciemment et y trouver des solutions collectivement. On nous a toujours appris à subir les décisions des chefs, des dirigeants. Il faut changer nos habitudes, forger nos armes contre l'autorité. Chercher par contraste des équilibres vivants, des modalités d'organisation et de prise de décision où chacun trouve sa place. Mais ne nous voilons pas la face. Ce processus n'est pas facile. Et les témoignages recueillis ici manifestent aussi un certain nombre de difficultés dont il faut prendre conscience. Les acteurs des expériences autogestionnaires expriment souvent une certaine frustration en constatant qu'on ne se débarrasse pas si facilement du pouvoir. Des rapports inégalitaires perdurent ou apparaissent. Les difficultés qui se manifestent sont multiples. Elles touchent aussi bien aux structures de pouvoir globales, les rapports de genre ou les problèmes de prise de pouvoir par la parole, qu'à des phénomènes micropolitiques qui tendent à des conflits affinitaires. En un sens, d'aucuns diraient que ces problèmes se rencontrent dans tous les groupes. Mais des relations déséquilibrées se développent plus spécifiquement dans les expériences autogestionnaires en fonction de l'ancienneté dans l'expérience, des différents degrés d'implication, des diverses compétences acquises. On ne peut affronter la question des rapports de pouvoir qu'à condition de commencer par accepter de la regarder en face. Combattre les logiques de pouvoir, ce n'est pas nier leur existence, mais en prendre le plus possible conscience et les remettre constamment en question dans la pratique. soutenir ou participer aux projets autogérés qui existent déjà, tels les diverses associations, collectifs, AMAP ou coopératives ouvrières de production. Nous pouvons aussi chercher et appuyer et relancer certaines initiatives, comme les structures d'éducation populaire abandonnées progressivement par le mouvement social. Il serait aussi intéressant de commencer à tisser nous-mêmes des réseaux de solidarité concrètes. Des repas partagés, des mutuelles de fraudeurs, des collectifs de mal logés. Au-delà, nous pouvons nous saisir de l'autogestion comme moyen de lutte face à une entreprise qui licencie ou un service public qu'on supprime. Nous pouvons enfin impulser de nouvelles réalisations pour généraliser l'autogestion à tous les domaines, clubs de sport, habitat, jardinage, transport, éducation, etc. Des outils collectifs existent pour appuyer et faire dialogue, et faire dialoguer ces initiatives telles le réseau repas. Car l'autogestion est encore et toujours exposée au piège de l'alternativisme, au risque de l'enfermement dans un petit îlot alternatif au milieu d'un océan d'inégalités et de crises. Pire, quand les entreprises autogérées restent isolées les unes des autres, on pourrait presque parler d'auto-exploitation. Elles sont en effet soumises à la concurrence et doivent entrer dans les mêmes impératifs de production et de rentabilité. La crise aura alors tout fait de les rattraper et de menacer leur viabilité économique. Le maintien de l'activité, le paiement concret des salaires. Cela pose la question du statut des expériences autogérées ponctuelles relativement à la globalité d'une société. Une partie du milieu autonome a ainsi tendance à affirmer que l'autogestion ne pourra vraiment être mise en œuvre que quand le capitalisme n'existera plus. Les expériences actuelles seraient en effet contraintes d'entériner une différence consommateur-producteur et ne mettraient pas assez en cause le salariat et les échanges marchands. En l'état actuel, l'autogestion ne serait finalement qu'une forme de gestion du capitalisme. Ce sera à chacun d'en juger à la lecture des témoignages. Mais cette vision apparaît bien réductrice et bien figée. Elle ne perçoit pas suffisamment l'autogestion en termes de processus et de conflictualité, ferme trop la porte aux possibilités d'expérimentation actuelles, aux leçons qu'elles nous permettent de tirer, aux points de levier qu'elles peuvent apporter, en tout cas face aux indéniables capacités d'intégration et de régénération du capitalisme. Ce qui est clair, c'est qu'un projet autogestionnaire ne garde à nos yeux sa signification et sa force qu'à condition d'être dans une dynamique de lutte. Ainsi, nous entendons ici autogestion au sens fort. Elle ne se réduit pas pour nous à un moyen neutre, mais indique déjà une perspective plus large et porte finalement en germe l'exigence d'une autre organisation sociale. Dans ce cadre, il est remarquable que l'autogestion revienne à nouveau sur le devant de la scène dans des contextes particulièrement conflictuels, dans des situations de crise, voire à la manière d'un dernier recours, une faillite par exemple. Cela est à la fois une exigence et un défi, car ces expériences auront apporté les difficultés inhérentes à une situation de crise. Les crises actuelles sont liées au passage à une financiarisation accrue, faute de rentabilité suffisante dans la sphère productive depuis les années 70, la place de la finance devient toujours plus grande au détriment de la production réelle. Cet éloignement du réel n'est pas sans répercussion sur les expériences autogestionnaires actuelles, qui cherchent en un sens à y résister. En outre, la crise actuelle n'est pas seulement économique, elle est en même temps politique. Elle démontre chaque jour un peu plus l'incapacité des États à apporter des réponses, non seulement ils sont trop liés au capitalisme et semblent plutôt constituer une partie du problème, mais leur mode d'organisation et de prise de décision paraît obsolète. Comme la crise est à la fois économique et politique, le défi auquel nous devons faire face aujourd'hui est de prendre en compte ce double aspect. L'idée d'autogestion est stimulante dans la mesure où elle se veut justement aussi une manière de dépasser la coupure entre économie et politique. Nous pouvons mettre en avant dès maintenant des réponses concrètes sur le mode de l'auto-organisation sans attendre que les solutions économiques tombent d'en haut. Cela nous donnera en même temps la légitimité pour critiquer les réponses étatiques, expérimenter d'autres possibilités, mais aussi dénoncer l'usage de la crise comme épouvantail idéologique visant à faire passer des politiques d'austérité. Face à la crise, les expériences autogestionnaires apparaissent comme un double levier pour inventer des voies nouvelles au-delà des grands systèmes en isme qui prétendent avoir réponse à tout. Les expérimentations autogestionnaires sont autant de brèches, de points de levier, de manière de nous poser des questions sur ce que nous voulons. L'autogestion commence ici et maintenant en nous basant sur la solidarité, les multiples formes d'entraide et de projets coopératifs qui refusent les fonctionnements hiérarchiques et les logiques de pouvoir. Si ce mouvement part d'une irréductible pluralité locale, ici et maintenant, ne signifie pas l'abandon de toute perspective de transformation globale à la manière de ceux qui ont récupéré le terme autogestion pour pousser les travailleurs à participer à leur propre exploitation. Au contraire, la généralisation de l'autogestion pourrait permettre à la fois la réappropriation des moyens de production et la participation directe aux décisions concernant ce que nous produisons et au-delà notre manière de vivre. Des possibilités discutées au cours de la foire à l'autogestion de juin 2012 à Montreuil, où de nombreuses structures, coopératives, associations, syndicats, organisations politiques se sont regroupées pour échanger autour des théories et des pratiques de l'autogestion qu'elles questionnent et expérimentent au quotidien. Voilà, je n'ai pas résisté à vous faire déjà découvrir avant l'heure un début de ce groupe redécouvert. Donc, ils sont venus en concert à la Boulangerie du Prado, ça s'appelle Pray, c'est un groupe lyonnais, c'est un trio. Pray, P-R-A-Y, avec un tréma si vous voulez aller déjà taper des infos pour en savoir davantage. Donc, c'est un 4-titres trio avec à la guitare Maud Gibbons, à la basse Jason Rawls et à la batterie Antoine Berthet-Bondet. Et c'est un groupe en plus d'être très bon, très sympathique. Je vous ferai écouter un morceau en entier en fin d'émission vers 17h, parce que le morceau dure 11 minutes. Alors là, j'avais récupéré ce petit livre sur l'autogestion empruntique, et voilà un exemple d'une forme d'autogestion à la conquête du pain. On arrive rue de la Baume à Montreuil. Il y a la queue à la conquête du pain, la boulangerie autogérée où bossent Pierre, Mathieu, Benoît, Florence, Lou, Hamid et Florin. Des bouquins et des revues en vitrine. La porte de la cuisine ouverte. C'est sympa et ça sent beau. On a rendez-vous avec Pierre. Une petite présentation de la conquête du pain. C'est une boulangerie qui vend du pain. Il faut remonter à mai 2010. Je discutais avec un camarade de la Fédération anarchiste. On se disait qu'il n'y avait pas de distribution de pain dans les AMAP. Tout est parti de là, faire du pain pour les AMAP. Après, on était beaucoup plus loin et on s'est même éloigné de ce projet initial. Aujourd'hui, on sert quand même 22 AMAP. Mais le monde des AMAP n'est pas vraiment alternatif. La plupart d'entre elles ne sont que des réunions de consommateurs qui veulent du pain bio. Ce n'est pas très intéressant, bien que certaines, comme celle de Saint-Denis, font du boulot sur le plan politique et social. À l'époque, en 2010, je zonnais un peu entre des boulots qui me faisaient chier et une relative stagnation professionnelle. Je me suis dit, tiens, si on ouvrait une coopérative, j'en ai parlé, ça a intéressé. Quand on a ouvert, fin août 2010, nous étions 4. Depuis, l'équipe a changé, mais le projet se pérennise dans le temps et s'implante durablement dans un quartier. La conquête du pain, c'est avant tout une boulangerie. On vend du pain, des viennoiseries, c'est notre activité principale. On a 18 sortes de pain, 5 ou 6 sortes de viennoiseries, une quinzaine de sandwichs. On est une boulangerie plutôt haut de gamme, mais on essaie aussi de développer un projet politique, à la fois dans notre fonctionnement et vis-à-vis de l'extérieur. En termes de fonctionnement, la boulangerie est autogérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, pas de dirigeant. Les salaires sont les mêmes pour tout le monde et les bénéfices, si bénéfices il y a, sont répartis égalitairement entre tous. On bosse tous autour de 40 heures par semaine. Comme on n'est pas encore assez nombreux en production, je bosse plus. Je fais 6 jours sur 7 et je prends un week-end par mois. Ça dépend aussi des périodes. En décembre, janvier, on taffe comme des malades. Nos week-ends et des jours de congés ont sauté. Vis-à-vis de l'extérieur, l'idée a été d'utiliser cette boulangerie pour développer un projet politique. On participe aux fêtes locales. On va dans les écoles, notamment pendant la fête du goût. Et les écoles viennent nous visiter. Une caisse de solidarité nous permet de faire du pain pour soutenir des luttes. On participe à des initiatives, voire on les organise. Nous avons été partie prenante du comité d'organisation de la première foire à l'autogestion en juin 2012. On a organisé des repas de quartier dans la cité. À côté de chez nous, on va leur proposer de faire la galette avec eux en janvier. On fait dans le quartier un petit événement par trimestre. Dans la boulangerie, il y a aussi une table de presse, des livres. On va bientôt y installer une bibliothèque et il y a des capotes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le seul endroit dans le coin où les jeunes peuvent trouver des capotes gratuites et de la documentation sur la sexualité, dont on ne parle pas dans les cités. On fait aussi des tarifs sociaux, des prix réduits aux personnes qui estiment en avoir besoin. Produire en autogestion, d'accord, mais pour produire quoi? Nous, on fait du pain bio, mais soyons honnêtes, le label, on s'en fout. On l'a parce que les AMAP le veulent, mais le label est une entourloupe. On sait bien comment ils procèdent, ceux qui font des labels. Ils créent des règles drastiques, essentiellement pour emmerder les concurrents. Le pain bio, c'est un écran de fumée pour vendre aux clients du mauvais pain. On va te vendre un pain rassis en te disant que c'est du bio, donc que c'est bien. Nous, on veut faire du bon pain de la meilleure qualité possible et accessible à tous au prix d'une boulangerie classique. C'est ce qu'on a fait. On fait du bon pain, du pain bio, du mieux possible pour tout le monde et on se permet même des tarifs réduits. On peut jouer au bio labellisé quand on fait de la dinette, mais quand on produit 2 tonnes de pain par semaine, on n'a pas le temps de jouer. Faut savoir ce que l'on veut. Soit on veut prouver qu'on peut produire en autogestion sérieusement, et dans ce cas, il faut ouvrir une vraie boulangerie. Il faut se former et bosser. Soit on veut faire du pain pendant un festival. Nous, on tient à faire du travail au niveau local. On veut pouvoir former les gens en leur proposant une idéologie différente du corporatisme, de l'artisanat, de la hiérarchisation, du respect pour un chef qui t'en fait baver parce qu'il en a chié quand il était à ta place. Parce que c'est ça. C'est ce à quoi on est confronté dans les écoles professionnelles, d'autant plus dans l'alimentaire. Donc non, on n'est pas bio partout et on ne pourra pas l'être. Sinon, soit on pratique des prix exorbitants, soit on ne se paye pas. Et ces deux options ne s'envisagent pas. Comment vivez-vous le paradoxe d'être militant anticapitaliste tout en gérant un commerce ? Nous sommes des petits commerçants, la boulangerie, on en vit. On ne va pas mourir de faim pour faire vivre l'idéal libertaire. Notre objectif, c'est d'en vivre. Donc en effet, on a des impératifs. En dehors de ces raisons très pragmatiques, c'est aussi un choix lié à la crédibilité d'un discours théorique. Tu peux te pointer avec ton tract d'organisation politique en vantant l'anarchie et l'autogestion, 90% des gens ne vont pas le lire. Mais le peu qui va avoir